Bonjour. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est pas juste une formule de politesse. J'ai toujours beaucoup de joie quand je viens ici à Wavrin de revoir des visages connus, aussi des visages moins connus, et de vivre ce temps avec vous. Et puis encore d'autant plus ce matin, ce temps d'étape, ce temps de fête où une équipe se met en place pour exercer sa vocation, pour exercer un service au milieu de vous. Il est important de se rappeler, je suis sûr que vous en êtes conscient, que quand il y a une équipe qui se met en place comme ça, ça ne la détache pas subitement du corps comme une équipe d'experts qui se met à part. Mais plus que jamais, c'est important pour une équipe qui se met en place de se sentir pleinement dans le corps, soutenu par le corps et en action ensemble. Donc voilà, c'est une vraie joie et je vous encourage à bénir, à être acteur du bonheur de ceux qui vous servent en vous préoccupant d'eux comme eux vont se préoccuper de vous. Alors ce matin, j'avais à cœur de partager quelques pensées autour de l'autorité. Un mot assez délicat. Et c'est pour ça que j'aimerais encore prier courtement avant de partager les pensées qui sont sur mon cœur. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce temps ensemble, pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons aussi te dire notre reconnaissance parce que tu exerces une autorité dans nos vies qui est bienfaisante, qui est juste et qui est bonne. Nous te demandons ce matin de nous aider, Seigneur, à comprendre ce qui est sur ton cœur dans ce domaine, de nous aider à comprendre ce que dit ta parole sur le sujet et surtout, Seigneur, de nous aider à le vivre avec un cœur entier. Merci Jésus. Amen. Alors le mot autorité, s'il est délicat d'en parler, c'est parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'observe qu'il a souvent une connotation négative. Quand avec mon épouse Sandrine, on fait des préparations de mariage, on a un moment de questions sur les questions d'autorité et de soumission. Et quand on demande aux jeunes, aux moins jeunes, qui se préparent au mariage, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand on utilise le mot « autorité » C'est presque systématique toujours, c'est « armée, militaire, obligation, contrainte, quelque chose qui va nous demander une sorte d'obéissance aveugle ». Ce n'est pas quelque chose de réfléchi, ça vient comme ça, de l'intérieur, spontanément. Alors, l'autorité, on a un peu de peine avec parce que justement, ça résonne pour nous souvent comme une possibilité d'abus, une possibilité d'être manipulé, une possibilité d'être utilisé sans être respecté. Et si nous avons ces impressions, c'est en partie parce que nous avons tous vécu des situations où une autorité inappropriée a été exercée sur notre vie. Et c'est pour ça que la conséquence, souvent, c'est qu'avec l'autorité, nous avons la peur. Et la peur, vous savez, elle peut nous conduire à l'extrême à deux choses. La peur peut nous conduire à l'obéissance aveugle, pour être sûr de ne pas se faire critiquer, taper dessus, de ne pas être mal vu. On va obéir, même si notre cœur n'y est pas du tout. Et quand vous êtes dans cette obéissance aveugle avec les années, vous allez sûrement avoir tôt ou tard des colères, des difficultés qui vont remonter à la surface. Mais la peur, elle peut aussi nous conduire à la rébellion. Le pendant inverse. Eh bien, tous ceux qui auront une quelconque position qu'on pourrait estimer être de chef, je vais systématiquement être contre pour être sûr que je garde le contrôle sur la situation. Et c'est ce qu'on appelle la rébellion. La rébellion, elle est presque toujours liée à une peur. Et ça va dépendre un peu de notre parcours, de notre tempérament, de quel côté du balancier nous allons passer. et des fois on passe d'un côté à l'autre du balancier dans la même journée, où on n'est pas du même côté du balancier suivant dans quel contexte on se trouve. Alors, j'aimerais vous partager quelques pensées autour de l'autorité qui ne devrait pas faire peur, de l'autorité selon Dieu. Il y a deux considérations majeures, générales, sur l'exercice de l'autorité selon le cœur de Dieu. L'autorité selon Dieu, elle est exercée pour mettre en valeur. Et l'autorité selon Dieu, elle est exercée pour protéger. Et vous savez que nous avons en fait tous une responsabilité et que nous sommes tous appelés à exercer l'autorité dans un domaine ou un autre. Ce matin, on a prié pour une équipe qui prend une responsabilité, qui aura une autorité dans sa responsabilité, qui a une autorité dans sa responsabilité, mais nous avons tous une autorité à exercer. Et le premier lieu d'exercice de notre autorité, c'est sur nous-mêmes. Mon âme bénit l'Éternel. Je t'ordonne, mon âme, de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. L'autorité sur nous-mêmes, c'est aussi ce fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Quand on n'a pas un exercice de gouvernement sur nous-mêmes, ça crée bien des désordres. Nous pouvons aussi exercer une autorité injuste à notre égard. Des fois, on peut s'interdire des choses que Dieu ne nous interdit pas et s'autoriser des choses que Dieu ne nous autorise pas. C'est le premier lieu d'exercice de l'autorité, notre propre vie. Et puis on a une autorité sur la création. Quand Dieu a créé Adam et Ève, avant la chute, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Qu'est-ce qu'il a dit à leur sujet? C'est que Dieu les a placés dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et cultiver, c'est assez intéressant parce que le mot, on peut le traduire par travailler, mais aussi par servir. Ça peut aussi être travailler pour un autre, servir un autre par son labeur. Quand on cultive, on va mettre en valeur là, des plantes, des arbres, un terrain. On va exercer une autorité dessus pour mettre en valeur. Et puis, il faut aussi garder le jardin. La chute n'a pas eu lieu, mais le serpent rôde déjà. S'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que le mal est déjà quelque part en route. Et garder, on peut le traduire par observer, prendre garde, être gardien, surveiller. Et donc, l'exercice de l'autorité, c'est mettre un frein aux forces de destruction, aux forces de mort. Et puis, c'est élever ce qui nous est confié. Que ce qui nous est confié, ça soit nous-mêmes, la création, l'Église, ma famille, mes enfants, je suis là pour élever. Quelle est l'aspiration normale des parents? C'est que les enfants puissent grandir, se développer et entrer dans leur propre vocation. Alors ça, c'est l'aspiration normale. Des fois, nous, on a l'aspiration de les garder pour nous. Et peut-être même des fois de freiner leur développement pour les avoir un peu plus longtemps dans notre dépendance. Donc, il y a une autorité à exercer. Avec mes enfants, je dois exercer une autorité. Mais le fond de cette autorité, c'est pour mettre en valeur, c'est pour que mes enfants puissent trouver leur chemin. C'est pas pour les garder pour moi. Et c'est pour un temps, en tout cas, pouvoir les protéger, sans les contrôler. Et la manière d'exercer l'autorité va dépendre de la maturité. Quand ma fille s'approche pour la première fois de la du gaz ou de la plaque électrique, des fois j'ai pas le temps de lui donner une explication, un enseignement de 3/4 d'heure avant d'arrêter sa main. Des fois il y a des interventions d'autorité chez les parents assez radicales et rapides. Mais il y a certaines interventions radicales et rapides à 18 ans, ça marche plus vraiment et heureusement. Donc, vous comprenez que nous sommes tous appelés à exercer une autorité et que ce que je suis en train de partager, à mon avis, est valable aussi pour l'équipe qui se met en place, mais pas seulement pour l'équipe en place, aussi pour nous dans les sphères que Dieu nous confie. Et juste au passage, quand vous regardez dans le Nouveau Testament la manière dont l'apôtre Paul exerce son autorité, vous allez voir qu'à des endroits, c'est une autorité entre guillemets très cool, où Paul ne parle pas avec force, si ce n'est pour donner des encouragements, et il y a des moments où il parle de manière plus ferme, parce qu'il a en face de lui des gens plus immatures. Mais à aucun moment, Paul ne cherche à se servir lui-même. À aucun moment, Paul ne cherche à protéger son autorité à cause de son orgueil ou de sa volonté de contrôle. Quand Paul devient plus sévère, c'est pour le bien de ceux qu'il sert. C'est pas pour se servir lui-même. Et c'est souvent là qu'on a des problèmes dans l'exercice de notre autorité. Parce que des fois, quand on hausse le ton, c'est pour garder notre place plus que pour servir. Mes amis, l'Église a besoin d'un gouvernement. Il y a un texte que les gens qui ont un problème avec l'autorité aiment bien citer. Et je vais le lire, Luc 22, 23, 27. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, donc entre disciples, qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors des fois on m'a cité ce texte presque pour dire mais il n'y a pas besoin de gouvernement dans l'église, tout le monde doit servir. Mais justement Jésus il ne dit pas qu'il n'y a pas besoin de gouvernement, il dit que celui qui gouverne, que seul lui qui gouverne, il y a un gouvernement. Mais voilà la manière dont je veux que vous exerciez votre gouvernement. Dans chaque pays, on a des problèmes différents avec l'autorité. Et on a besoin de confronter notre culture ou notre relation à l'autorité pour voir quelle est la culture biblique de l'autorité. Si Jésus fait clairement apparaître que le gouvernement peut être exercé pour des raisons inavouables et égoïstes, il reconnaît aussi la nécessité d'un gouvernement dans l'Église. En l'occurrence, ce gouvernement, il va être en premier lieu confié aux apôtres. Je profite de rappeler une petite chose que souvent on perd de vue, un petit détail, mais qui n'est pas tellement un détail. On parle toujours des 12 disciples de Jésus. Il faut se rappeler que Jésus n'avait pas que 12 disciples. Il en avait des centaines. Et il a passé une nuit en prière pour savoir parmi ces centaines de disciples lesquels il allait choisir comme apôtres. L'apostolat est une fonction au milieu des disciples. Et Jésus a prié et cherché la face de Dieu. Oui ? Alors, pour la référence, Luc 6, 13, « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est, là, je lis juste ce verset, hein, faut lire l'ensemble du texte. Et puis, donc aussi, le fait qui nous montre qu'il avait des centaines de disciples, c'est que avant la Pentecôte, mais après la résurrection, il a apparu à 500 disciples à la fois. Dans 1 Corinthiens 15, pour ceux qui veulent la référence. Vous m'excuserez peut-être des fois, vous avez raison d'être comme les Béréens et de vérifier si ce que je dis est dans les Écritures. Donc vous m'excuserez de passer peut-être un peu vite. Acte 1-2 nous dit « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis ». On voit qu'il y a certaines choses que le Seigneur a confiées particulièrement aux apôtres. Pas parce que les apôtres avaient plus de valeur aux yeux de Jésus ou qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais ils avaient cet appel, cette vocation particulière à remplir. D'ailleurs, quand on les regarde de plus près, ces apôtres, ils sont bien limités, comme nous. Juste au passage, ce gouvernement, on pouvait le voir, parce que dans Acte 2.37, le jour de la Pentecôte, il nous est dit, après avoir entendu ce discours, donc la foule, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Donc les gens avaient déjà discerné, je ne sais pas comment, sous quelle forme, que ces 12-là étaient les responsables de la communauté. Et puis, dans Acte 6, le nombre des disciples augmente, et puis entre premier disciple juif d'origine de la terre d'Israël et juif d'origine de la diaspora, qu'on appelle les hellénistes, il y a du grabuge. C'est le premier vrai risque de division de l'Église. Déjà dans Acte 6, hein, ça vient vite. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ce grabuge est lié parce que le gouvernement n'est plus adapté à la situation. Les apôtres doivent tout faire. Ils dirigent la prédication, le ministère, la prière. Ils essayent de diriger la gestion des biens de la communauté. Et ça ne va plus. La crise révèle que les apôtres en font trop. Même les apôtres avec le Saint-Esprit, avec leurs 3 ans avec Jésus, ils ont besoin d'apprendre dans l'expérience du terrain les choses. Hein, ça nous rassure ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. C'est l'institution du diaconat. Et donc, une nouvelle sphère de gouvernement. Les diacres vont exercer un gouvernement sur la gestion des biens de la communauté. Alors, ça serait un peu fastidieux de passer en revue tous les textes, mais je vais juste encore mentionner qu'ensuite, il y aura à Jérusalem, en plus des diacres et des apôtres, il y aura des anciens. Des gens qui vont vraiment avoir le souci de la communauté locale, parce que ces apôtres, comme ils vont commencer enfin d'obéir à Jésus un peu retardement, ils vont partir dans les nations faire des disciples. Donc ils ne peuvent plus rester toujours là présents sur le plan local. Donc il y a un gouvernement dans l'Église, et ce gouvernement est une bonne chose. Nous avons juste à apprendre, soit à l'exercer avec sagesse, soit à l'accueillir avec bonté. Parce que ce gouvernement n'est jamais parfait, mais ceux qui s'en plaignent ne le sont pas non plus. Et ce qui peut vraiment nous aider à marcher ensemble, parce que sans être du tout prophète de malheur, il y aura tôt ou tard, et pour votre équipe et vous aussi, des sujets de tension, ce qui sera la bénédiction, c'est l'humilité de part et d'autre. Pas la fausse humilité, on fait semblant. dans le discours de dire oui, non, je suis petit, je ne suis qu'un petit serviteur, mais dans les faits. Mais la véritable humilité, celle où on sait que, quelle que soit notre fonction dans le corps, on est tous en train d'apprendre. On est toujours en apprentissage. Et de ne pas prendre le prétexte des faiblesses pour écraser, pour accuser. Les oreilles ce matin ont été lavées. Si elles peuvent rester propres un moment, ça serait cool. Mais ils doivent aussi s'occuper de vos oreilles. Hein. Donc, tout le monde devra faire attention à sa langue et à son oreille. Il est bon aussi de se rappeler que Jésus est l'autorité suprême de l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, 28, Paul nous dit que certains ont reçu le don de gouverner. Et le terme qui est utilisé ici, kubernésis, est dérivé du verbe kubernao. Ça, c'est juste pour frimer que je fais du grec. En fait, je ne maîtrise rien. Mais ce qui est intéressant, par contre, après avoir frimé, c'est que le terme utilisé ici, en fait, il fait référence à la base à l'idée de gouverner un bateau. En fait, le kubernetes, c'était l'homme de la barre, le timonier. On retrouve ce terme dans Actes 27, 11, sur le bateau qui va couler avec Paul et les prisonniers dessus. Et le kubernetes, le timonier, le gouverneur, celui qui gouverne, c'était quelqu'un qui avait la caractéristique de connaître les moments du jour, de l'année, qui savait reconnaître dans le ciel les étoiles, qui avait la connaissance des vents pour mener le navire à bon port. Mais le timonier n'était pour ainsi dire jamais le propriétaire du bateau. Il est uniquement le pilote. Il exerce son gouvernement sous l'autorité du capitaine, du propriétaire du bateau. Ça, c'est important de se rappeler. Chaque fois qu'on exerce une autorité, sans se souvenir que cette autorité nous a été donnée par plus grand que nous, c'est là que des fois les abus commencent et que les dérapages viennent. Le gouverneur, c'est celui qui est chargé par le chef suprême d'administrer. Et c'est intéressant dans les Écritures de voir que Joseph, dans l'Ancien Testament, était gouverneur sous l'autorité du Pharaon. Néhémie était gouverneur sous l'autorité de l'empereur perse. Et Daniel était gouverneur sous l'autorité, entre autres, de l'empereur babylonien. Souvent, les gens qui sont des modèles bibliques ont été dans une autorité très forte, importante, mais sous l'autorité d'un autre. Et je pense que c'est aussi un signe prophétique pour nous. Un ministre de l'Évangile, un ancien, un responsable d'Église n'est jamais le propriétaire de l'Église. Vous savez, des fois, on me dit, alors on ne me le dit jamais méchamment, ça me fait sourire, et ça, mais des fois je corrige, parce que notre vocabulaire est révélateur. On me dit, on parle de l'église du pasteur Franck Jeanneret. Moi, je n'ai pas d'église à moi. Le jour où j'ai une église à moi, c'est que je me suis approprié ce qui ne m'appartient pas. C'est que je me prends pour l'époux au lieu d'être l'ami de l'époux. L'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à un seul Jésus. Et tous ceux qui ont un rôle de gouvernement dans l'Église servent celui qui est l'époux, comme des amis de l'époux. Et si vous voulez voir comment c'est un ami de l'époux, je vous invite à relire les textes qui parlent de Jean-Baptiste. Il est aussi important de se rappeler l'importance de travailler en équipe. Vous le savez, c'est ce que vous souhaitez. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais se rappeler aussi que les ministères sont donnés. Certains peut avoir un appel d'apôtre, d'autres de prophète, d'autres d'évangéliste, d'autres de pasteur, d'enseignant. Ces vocations sont données pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Je rappelle que les responsables ne sont pas là pour faire le boulot à la place de l'assemblée, mais qu'ils sont là pour aider l'assemblée à être en mouvement vers le projet que Dieu a pour elle. Des fois, et je l'ai vu dans plusieurs églises, on nomme des responsables et on est content parce qu'on aura enfin quelqu'un à critiquer pour passer notre frustration, et puis ça nous donnera le prétexte de peut-être pas faire grand-chose parce que maintenant on a nommé des gens pour le faire. Je dis pas que c'est ce qui se passe au milieu de vous, hein, mais je vous invite juste à être attentif. Une bonne équipe de gouvernement dans le corps de Christ, c'est une équipe qui met tout le monde en mouvement. Pas pour faire de l'activisme, mais pour être témoin là où Dieu nous attend, là où il nous a placés. Nous sommes appelés à être une église apostolique, pas au sens dénominationnel, mais au sens étymologique d'une église envoyée vers le monde. Donc, gouverner, c'est pas seulement gérer les affaires courantes, mais c'est aussi former, accompagner, mettre en route, encourager, nourrir. Et j'aimerais conclure encore par ce texte de 1 Thessaloniciens 2, 6 à 11, qui nous montre comment ce gouvernement se manifestait dans la vie de l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 2, 6 à 11. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Juste au passage, des fois, on peut avoir une légitimité d'autorité, mais on n'est pas toujours obligé d'utiliser le poids d'autorité que l'on a, même si elle est légitime. C'est un peu particulier. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. L'apôtre Paul, énergique, avait aussi en lui de la douceur. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ça nous interpelle. Moi, j'ai besoin de prier. Seigneur, apprends-moi encore à aimer. Pourquoi Paul peut parler comme ça? Parce que c'est Jésus en lui qui lui donne ce désir, cet amour, qui est prêt à suivre le même chemin, celui de la croix, pour ceux et celles qui lui sont confiés. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Le but, c'était pas de tondre les moutons. Même si Paul dit que celui qui enseigne pourrait avoir part, on ne muselle pas le bœuf quand il foule le grain, mais Paul, là aussi, n'utilise pas ce qu'il pourrait décrire comme un droit. Il ne l'utilise pas avec les Thessaloniciens. Parce que c'est l'amour qui est le moteur de son ministère. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Un gouvernement de type parental, mais pas infantilisant, pour mettre en route une communauté, pour l'accompagner dans le plein développement de ce qu'elle est appelée à être. En conclusion, Nous ne sommes plus au temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous avons besoin de savoir où on va, nous avons besoin de reconnaître des conducteurs, des conductrices qui donnent la direction dans l'écoute du Seigneur. Et nous avons besoin de conducteurs prêts à être eux-mêmes toujours en apprentissage. Alors que le Seigneur vous accompagne, vous soutienne et vous aide. Et si vous êtes d'accord, pour ceux qui le peuvent, de vous lever encore. Et on va demander au Seigneur sa grâce sur nous tous pour que nous apprenions à exercer l'autorité qui nous est confiée avec discernement, sagesse et amour. Seigneur, ta parole nous dit que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Seigneur, nous voulons accueillir cette force que tu nous donnes, cet amour que tu nous donnes, et cette sagesse pour exercer l'autorité que tu nous as donnée dans notre propre vie, dans nos contextes de famille, là où nous travaillons ou là où nous sommes en relation avec d'autres. Seigneur, là où nous avons des responsabilités. Seigneur, équipe-nous pour exercer une autorité saine, une autorité sainte, une autorité bénissante, une autorité libératrice, une autorité qui se réjouit de la croissance, qui se réjouit de libérer et pas de contrôler. Seigneur, libère-nous. Et on te demande encore une fois ce matin, bénis particulièrement l'équipe de responsables qui a été nommée, qui est mise en place. Seigneur, te demandons de l'affermir, de l'établir et de la faire grandir jusqu'à la maturité. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous, parce que tu nous promets de la mener à son terme. Et Seigneur, quand il y a de l'eau dans le gaz, quand ça grincera des dents, Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, à trouver le juste chemin. Seigneur, aide-nous à venir devant toi avant d'aller les uns vers les autres, à venir devant toi déposer nos questionnements, nos rancœurs, nos amertumes. Seigneur, aide-nous à toujours passer devant toi avant et de pouvoir aller à la rencontre de nos frères et sœurs d'une manière juste et bénissante. Amen. Amen. Merci.